Bien, donc ce soir, je voudrais me livrer à une expérience, hein, parce que c'est un type de choses que je n'ai jamais fait et qui est un peu caractéristique du travail que je propose dans le cadre donc, de mon laboratoire à l'EHESS, qui va consister à parler de choses dont on parle en général, absolument, pas en général, absolument en général, universellement, on n'en parle jamais hein, en psychanalyse.
90%
Vous
connecté
m'entendez?
à MacBooker de marque, connecté à iPhone.
Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais bon. Voilà, ce que je vais faire ce soir est assez inédit. Et c'est même, je vais dire d'emblée, pour que vous voyez la nature le caractère extrêmement polémique, de mon propos ce soir, bien qu'il soit, je pense, aussi extrêmement développé sur le plan, soutenu sur le plan de la recherche contemporaine en sciences sociales. Il est même complètement contraire à la façon standard d'articuler psychanalyse et critique sociale, qui est assez dominante, en France. Puisque, comme vous savez, suffit d'ouvrir tout ce qui se publie, ce que les gens se racontent, etc. Il y a une sorte d'opinion commune selon laquelle la psychanalyse montrerait, au fond, les souffrances subjectives causées par certaines déstructurations sociales, en général référées donc au néolibéralisme ou plus récemment d'ailleurs à l'oppression coloniale, en sorte que ce qu'on appelle les pathologies sociales de la modernité, sont reconstruites à partir d'indices cliniques qu'on trouve sur le divan et qui sont comme ça généralisés de manière à donner une sorte de portrait type de l'homme qui va mal, hein, alors qui prend différents noms selon les écoles de psychanalyse, et qui sont généralisés en fait à c'est l'homme qui va mal, c'est pourquoi les gens vont mal. Avec une référence absolument antisociologique, n'est-ce pas, un concept de population, les gens, hein, comme ça, avec je sais pas, souvent des rapports qui sont faits avec des taux de statistiques de ceci ou de cela qui augmentent, comme la dépression, etc. Ce qui caractérise ce type d'approche qui est pas dominante, qui est omniprésente et qui est la seule chose dont on parle dans le milieu analytique, ce sont des versions qui sont systématiquement déclinistes hein, et dont le prototype d'ailleurs n'a pas été élaboré vraiment par des psychanalystes, mais par un livre qui a profondément marqué l'interprétation populaire des transformations de la société contemporaine, qui est La culture du narcissisme de Christopher Lasch. Bon. Alors, ce livre, La culture du narcissisme, Christopher Lasch, qui fait un peu partie je dirais, du pont aux ânes de la critique ou de la lecture psychanalytique du monde moderne, n'a évidemment pas la grandeur de textes qui mettent déjà en circulation la plupart des tropes propres à cette critique psychanalytique du monde moderne, qui était présente chez quelqu'un qui, lui non plus, n'est pas un psychanalyste et qui a Adorno dans les Minima Moralia. Hein. Mais avec évidemment un génie bien inférieur. Ce qui est très intéressant avec Christopher Lasch, c'est qu'il a écrit ce livre, La culture du narcissisme, après toutes sortes de travaux qui, eux, sont pas traduits et qui sont beaucoup moins connus, sur le déclin de la famille, notamment de la famille américaine. On trouverait, malgré les différences très importantes qui séparent Keith Lasch de quantité d'auteurs, des propos relativement similaires chez des très grands penseurs de la société contemporaine, comme Richard Sennett, par exemple, ou bien Anthony Giddens, dont il ne faut pas oublier que Giddens a été un des grands intellectuels proches de Blair, a été quelqu'un qui a participé à la rédaction du programme du New Labour à l'époque où ils l'ont écrite, et que ce sont donc des gens qui ont un poids absolument considérable. Hein. Ce sont pas du tout voilà, ce sont pas des intellectuels marginaux. Alors en France, vous avez par exemple, Christopher Lasch, j'ai découvert qu'une réédition récente de Christopher Lasch était de la plume de. Il y avait une préface de la plume de Michéa. Enfin, vous voyez le genre de personne qui s'intéresse à ce genre de choses. Alors, l'idée qui est intéressante chez Lasch et pourquoi ça m'intéresse, c'est que le livre est paru en 1979 et que c'est un livre qui emprunte directement et immédiatement à l'émergence des nouveaux tableaux cliniques qui s'imposent à la fin des années 70 dans la clinique américaine, et en particulier des deux choses dont je vais parler, de la chose dont je vais parler fondamentalement ce soir, qui sont les états limites. En particulier parce qu'il y convoque, hein, Kit Lash, dans ce texte qui a beaucoup plus fait pour la propagation du terme d'état limite et les recherches et l'intérêt pour la notion d'état limite que tous les travaux de la psychanalyse. Hein, il ne faut absolument pas se tromper là-dessus. C'est vraiment parce que Kit Lash en a parlé que ça a pu circuler dans le public et s'implanter comme une... Avant, c'était vraiment une question complètement... absolument marginal, discuté à l'intérieur du milieu analytique, mais qui était tout à fait pas du tout considéré comme un problème de culture. C'est Lash qui l'a lancé cette question des états limites, en convoquant notamment des lectures tout à fait sérieuses de choses qui venaient de sortir, d'Otto Kernberg, de Kohout, hein, qui sont d'ailleurs mélangés les uns avec les autres à peu près comme si Kernberg et Kohout disaient la même chose, alors qu'ils c'était vraiment absolument incompatible, hein, aussi bien cliniquement que théoriquement, mais qui aboutissent à considérer ceci, qu'au tournant des années 70-80, les troubles narcissiques, la grandiosité sans empathie, les troubles borderline, hein, les angoisses abandonniques et les conduites impulsives qui échappent aux régulations habituelles du refoulement névrotique, seraient devenus exemplaires d'une pathologie sociale générale de la société américaine au tournant des années 70-80. Et que, alors, on l'oublie, mais c'est des choses que rappelle Michéa et qui montrent bien d'ailleurs quelle est la véritable couleur des clinistes réactionnaires de ce genre de jugements moraux sur la société, c'est que Lash était un conservateur. C'est-à-dire que pour lui, le problème de ces pathologies narcissiques et de ces états limites, etc., c'est la dégénérescence du bon individualisme américain, qui devient un mauvais individualisme américain, qui devient voilà. Alors, il y a au même moment, hein, des travaux absolument formidables, hein, sur cette crise, qui sont eux des travaux scientifiques d'une très 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 grande importance, mais qui sont moins connus. Alors, je tout d'un coup le nom m'échappe, mais il y a le fameux Bowling Alone, hein, qui est une enquête absolument magnifique. C'est de qui Bowling Alone, Alex, vous vous rappelez? Mais Alex, son micro marche pas, donc on ne l'aura pas. Je ne me rappelle plus de qui c'est, qui est une enquête extraordinaire sur les transformations de l'individualisme américain, mais qui n'est pas une analyse moralisatrice. Et le titre s'appelle Bowling Alone, parce qu'en fait, le bowling était une des grandes activités de la middle class américaine, un des lieux de rassemblement et de la sociabilité fondamentale dans l'économie des communautés, des familles, du monde du travail, du syndicalisme, etc. Et que la fin, voilà, c'est Robert Putnam, voilà, c'est ça. Ce bowling, hein, le bowling cesse d'être un lieu fondamental de la sociabilité américaine, et il fait cette anticipation géniale que Putnam, qu'en fait, ce sont les groupes de self-help qui vont désormais remplacer les formes de sociabilité propres à l'évolution de l'individualisme américain. Alors, je crois que ce qui est très intéressant en prenant les choses sous cet angle-là, c'est-à-dire en sortant la question des états limites et des troubles narcissiques, des choses et de ce qu'on appellerait également les états schizoïdes ou schizotypiques, de la discussion, je dirais, psychopathologique, en la situant dans la nature du problème social qui s'est construit en utilisant ces catégories, c'est que ça permet de jeter un œil particulier sur le type de problème qui s'est posé à l'intérieur de la psychopathologie pour donner une délimitation claire de ce type de syndrome. C'est une entité qui a été et qui reste absolument problématique. Ce sont les états limites, hein. Autant d'auteurs, autant de conceptions de ces choses-là, autant de propos absolument tranchés sur le type de métapsychologie qui devrait permettre de bien distinguer les vrais états limites des faux états limites, les vrais états limites de l'hystérie, les états limites des psychoses blanches ou des choses comme ça, hein, autant de propos. Et que, en fait, c'est très important de s'abstenir de créditer d'entrée de jeu ce type de considération d'une valeur théorique. C'est très important de s'en abstenir. en indiquant que de toute façon, on a affaire à un spectre de situations qui présente un air de famille. Un air de famille dont vous allez voir que l'air de famille a des déterminants qui sont fondamentalement sociaux et anthropologiques et qui sont fondamentalement liés aux transformations de l'individualisme dans les pays développés, notamment aux États-Unis, à partir des années 60-70. C'est, par exemple, des objets qui intéressent les moralistes, comme l'adolescent qui reste un adolescent. C'est l'adolescent qui ne devient jamais un adulte. Avec ensuite des enquêtes comme ça, épidémiologiques, entre guillemets, parce qu'elles ont vraiment des fragilités qui sont bien connues, hein, qui expliquent que le borderline, c'est une pathologie qui s'observe particulièrement chez les adolescents. Bref, c'est une vaste crise du moi, de l'identité fragile, des angoisses d'abandon et de l'impulsivité qui perturbe les systèmes traditionnels d'autorégulation de l'agir en société. Jusqu'au point, n'est-ce pas, que très rapidement, les borderline vont être examinés dans les prisons américaines parce qu'il y a un système de suivi psychologique extrêmement important dans le système pénitentiaire américain et qu'on va s'apercevoir que la question de la consommation de drogue, la question de la psychopathie, la question des automutilations, un symptôme comme ça qui apparaît et qui est devenu un marqueur extrêmement important des pathologies de l'adolescence dans différents pays du monde. J'ai un étudiant, par exemple, l'an dernier, il y a 2 ans, j'étais à la soutenance de thèse d'un étudiant qui a fait une comparaison absolument remarquable sur l'automutilation en France et au Chili chez les adolescentes, hein, et où vous apercevez, par exemple, de situations abracadabrantes, parce que tout le monde parle de l'automutilation comme d'un phénomène pour lequel on passerait pratiquement les adolescents à l'imagerie cérébrale pour voir qu'est-ce qui dysfonctionne dans leur cerveau, hein. Puis vous apercevez que, par exemple, qu'au Chili, alors que nous, l'auto-agressivité est strictement corrélée à l'hétéro-agressivité chez les adolescents, au Chili, il y a zéro hétéro-agressivité, zéro. C'est-à-dire, il n'y a jamais aucun cas d'adolescent qui attaque qui que ce soit quand il s'automutile. Bon. Donc ça, c'est probablement pas parce qu'ils sont fabriqués avec des protéines différentes, hein, les adolescents chiliens, vous voyez. Donc il y a des marqueurs sociologiques qui deviennent complètement méconnus. Faute d'enquête et même faute en général, mais de bon sens, hein, dans ce genre de travail. Donc c'est très intéressant le travail qu'il a fait en comparant, hein, des techniques de soins et en s'interrogeant sur les conditions historiques de production de ce que c'est qu'un adolescent. Et c'est évidemment pas la même chose dans le Chili d'aujourd'hui qu'à Paris, à la Maison de Solène, où il a travaillé. Alors ce qui me paraît très important aussi, c'est que cette crise du moi, elle est très, très, très vite apparue aux psychanalystes comme étant de nature différente de celle de l'hystérie. Il y a eu, on va en parler, hein, du rapport entre borderline et hystérie, mais le mode de traitement des crises du moi dans l'hystérie, c'est des crises du moi qui renvoient à des fixations infantiles, tandis que dans le borderline, on a l'impression que c'est la forme même, la structure même du moi qui est atteinte d'une sorte de labilité qui pose problème. Alors, ce que je suggère de faire, pour bien approcher le problème, c'est de ne pas faire, pas plus que tout à l'heure je disais qu'il faut, il faut refuser d'entrée de jeu comme étant plutôt un objet examiné qu'une théorie valide, le moralisme décliniste qui accompagne ces considérations sur la dégénérescence de l'individu moderne. De la même manière, et pour les mêmes raisons, il faut absolument s'abstenir. C'est un point important du point de vue de la philosophie des psychanalyses et de la philosophie des sciences. Il faut s'abstenir de créditer de la moindre plausibilité conceptuelle et argumentative les débats contemporains sur les distinctions éventuelles entre personnalité narcissique, borderline, schizotypique, etc. Il faut accepter qu'il s'agit là d'un ensemble de choses qui ont un air de famille, qui sont mobilisés par des acteurs intellectuels pour valider un certain nombre de représentations conceptuelles, mais qui n'ont pas, et là je pèse mot parce que c'est quand même assez violent ce que je suis en train de dire, qui n'ont pas de consistance intellectuelle et théorique. Voilà, ça n'en a pas. Ça exprime juste des modalités de rationalisation, de ratiocination sur des phénomènes dont vous allez voir un peu peut-être une autre façon de les considérer. et que c'est très important de bien distinguer ce que je vous ai raconté dans les séances précédentes sur la construction d'un appareil psychique chez Bion, etc., avec le coût conceptuel que ça représente, la finesse d'élaboration, de construction, etc., et ces ratiocinations contemporaines dans lesquelles chacun y va, de sa petite interprétation de Mélanie Klein, du bon et du mauvais objet, etc., qui sont en général extrêmement déficientes sur le plan de la cohérence et qui produisent des controverses qui n'en sont pas vraiment, dont la raison d'être est beaucoup plus extérieure au contenu des concepts et institutionnels. Je ferai une exception, une petite exception, mais c'est vrai, c'est une exception qui est liée au caractère méthodologique de sa contribution pour André Green. Parce qu'André Green est peut-être celui qui, justement, assez paradoxalement, en interrogeant la notion même de limite, a permis de donner une entrée, je crois, assez intéressante à l'approche psychanalytique de ces questions. Alors, le troisième, enfin, j'ai parlé des troubles narcissiques, de la fameuse grandiosité sans empathie accompagnée d'effondrements dépressifs. J'ai parlé de la crise du moi dans les états limites, hein, les identités fragiles, les angoisses d'abandon, l'impulsivité, les défauts de l'autorégulation de l'agir social. Il y a un troisième type d'état limite qui est classiquement rangé comme ça, en tout cas par les psychiatres, ce sont les troubles schizoïdes ou schizotypiques, hein, qui viennent d'ailleurs plutôt de la nosographie anglaise, hein, britannique, les personnalités asives, etc., qu'on range d'Hélène Dutch, qu'on range assez classiquement dans les états limites, parce que tout simplement, on ne sait pas les ranger ailleurs, donc on va les mettre là, puisqu'il y a une catégorie, hein, c'est un excellent argument clinique, ça, quand vous ne savez pas. Il faut avoir une catégorie, vous mettez toutes les choses que vous ne pouvez pas mettre dans les autres catégories. Dans la psychopathologie contemporaine, c'est les états limites, c'est extrêmement pratique et c'est pour ça qu'ils sont appelés à un avenir, grand avenir, les états limites. Alors, ce qui caractérise ces troubles schizoïdes, c'est les fameux troubles de la pensée. C'est-à-dire, c'est l'isolement qui va jusqu'à la dépersonnalisation avec une hypersensibilité aux réactions d'autrui. Donc, c'est pas des apathiques, c'est pas des personnalités évitantes, etc. L'inadéquation des affects qui est en général connotée de froideur, hein, dans les tableaux ordinaires qui nous sont présentés, et puis des bizarreries de discours qui sont éventuellement, dans certains cas limites, accompagnées de délires de référence. On parle de moi, on pense à moi, on me regarde, on me fait faire des choses, etc. Mais toujours à un seuil inférieur à celui qui permettrait de caractériser un délire en bonne et due forme. Très clairement, il s'agit. Qu'est-ce qui fait l'air de famille avec le reste? C'est la crise du moi, hein, c'est la porosité du moi, l'incapacité du moi de se loger dans des échanges sociaux, etc. Si vous mettez maintenant, une fois que j'ai dit ça, si vous mettez maintenant de côté la question psychosomatique qui mérite un traitement à part, et que d'ailleurs je ne suis pas sûr de traiter moi-même, je vais peut-être demander à quelqu'un de venir nous en parler, la question de la psychosomatique moderne, hein, contemporaine, eh bien, vous avez, là, je vous ai dressé typiquement la liste des patients pour lesquels c'est progressivement émancipé dans la psychanalyse, ce courant qu'on appelle la psychanalyse contemporaine, et qui, précisément, propose de s'occuper de ces patients-là. Voilà. Et toute la question de la rêverie, la question des traitements du contre-transfert, la question de la synthèse de Bion et de Winnicott a été essentiellement construite et mobilisée pour ce type de patients, c'est-à-dire la vaste catégorie du non-névrotique, mais qui n'est quand même pas psychotique, du non-névrotique qui n'est pas psychotique. Et de Bion et de Winnicott, mais avec une origine kleinienne, puisque même quelqu'un comme Kernberg, hein, qui parle une forme d'idiome kleinien quand il essaie de construire sa pensée, est vraiment très, ben, bien qu'il soit absolument pas kleinien, en réalité, je vais dire pourquoi, Kernberg, qui est un des pères, hein, de la notion de borderline et de personnalité narcissique, se réfère à cette figure. En fait, il n'était pas kleinien, Kernberg. C'est une chose dont on s'aperçoit à la façon dont il faisait ses examens cliniques. ce que j'ai pu échanger avec quelqu'un qui a assisté pendant des années aux présentations de malades de Kernberg. Et Kernberg était quelqu'un qui avait une conception du délire comme étant un trouble du rapport à la réalité. Et que, par exemple, il y avait quelqu'un qui disait qu'il était poursuivi par le FBI. Kernberg décrochait le téléphone pour vérifier avec la patiente que le numéro en question n'était pas le numéro du FBI. Et il n'était pas sûr du tout qu'en fait, ce n'était pas vraiment le numéro du FBI. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'il vérifie dans la réalité qu'on avait bien affaire à quelque chose qui n'existait pas. Et il l'expliquait à la patiente, mais vous voyez, ce numéro n'est pas un numéro du FBI. Et quand la patiente lui disait, oui, mais c'est votre annuaire qui est truqué parce que c'est le FBI, etc., il montrait que les autres annuaires étaient ça. Donc, il était complètement pris. J'en vois quelques-uns qui se marrent, oui, mais c'est quand même impressionnant parce que Kernberg a formé des générations de cliniciens à la psychanalyse aux États-Unis qui ont considéré qu'être formé par Kernberg à des trucs qui nous paraissent, de ce côté de l'Atlantique, complètement ahurissants, était la norme. Hein. Et j'avais eu l'occasion de voir quelqu'un me raconter ça en détail, je l'avais vu d'ailleurs confirmé par d'autres. Donc, vous voyez, pourquoi cette longue entrée en matière autour de la question du déclinisme, autour de dans l'appréciation du comportement social, la connexion avec le problème de savoir si c'est bidule ou machin truc qui a raison sur ce que c'est que le borderline, etc., c'est que tout se passe comme si le besoin de psychanalyse qui a évolué jusqu'à la formation de cette configuration qu'on appelle la psychanalyse contemporaine, n'est pas, au fond, venu rencontrer des pathologies sociales qui, d'ailleurs, assez curieusement, se sont elles-mêmes identifiées comme pathologies sociales en faisant appel à des psychanalystes, hein, à Kernberg, à Kohut, etc., dans une sorte de cercle de renvoi de miroir, hein, où quelque chose qui se passe dans les sociétés modernes, hein, au tournant des années 70-80, qui touche la question de la faiblesse du moi, se trouve en quelque sorte à partir de généralisation audacieuse pour dire le mot gentiment, soutenir comme ça une théorie des états limites comme problème civilisationnel, hein, comme problème civil. La forme que prend à partir des années 70 le malaise dans la civilisation, c'est d'essayer de rendre compte de ce problème dont la causalité va très très rapidement être imputée à une de ces entités mystiques qui s'appelle le néolibéralisme mondialisé, n'est-ce pas, qui est toujours disponible pour expliquer le mal et qui agit, qui déstructure le moi. Et donc avant de passer au point suivant, je résume. Les points de base de mon argument, c'est qu'il est très important de s'abstenir, de tenir pour évidente que les querelles, là où elles se situent le plus souvent, c'est-à-dire au niveau de définition clinique, de discussion conceptuelle, auraient une consistance propre, d'une part, pour voir s'ils ne sont pas en réalité, si la philosophie des sciences ne consiste pas justement là à refuser le statut de concept à discuter scientifiquement à ce type de controverse, et d'autre part à tenir compte du fait qu'il y a un appel, un besoin extrêmement fort d'éclairer des crises, des douleurs, des spécificités qui paraissent socialement, dans le discours commun, dans les rencontres que les gens font avec des patients, qui suscitent une perplexité nouvelle. Alors, je vais quand même partir des questions aujourd'hui absolument sans réponse, parce que ayant beaucoup trop de réponses, autant d'auteurs, autant de conceptions, et du narcissisme, et de ses problèmes, et de ce que c'est qu'un état limite, etc. Alors, il y en a qui ont, chez les meilleurs esprits, d'ailleurs, suscité une méfiance salutaire. Hein, je disais par exemple que c'est ce qui fait le caractère assez tranchant des positions d'André Green à cet égard, mais aussi de Christopher Bolas, hein, qui a été extrêmement prudent sur les raisons justes de lutter contre la généralisation du diagnostic d'état limite, quand il était aux États-Unis, un observateur. Hein, dans le livre, dans Hysteria, que nous avons traduit avec quelques personnes du séminaire dans Hysteria, ils racontent très bien hein, comment c'est sidérant de voir dans les services, tout d'un coup, la moitié des gens se retrouvent étiquetés borderline depuis quand la catégorie est disponible. Bon. Donc, est-ce que les états limites ne seraient-ils pas autre chose qu'au fond de l'hystérie, mais de l'hystérie modernisée? Bon, ça, c'est une position qu'on entend très souvent. C'est une forme de voire hyper moderne, une hystérie hyper moderne, mais on n'aurait pas besoin de revenir sur les fondements de la théorie freudienne de l'hystérie. Est-ce que ce ne serait pas en réalité des psychoses, mais des psychoses que les gens ne sont pas capables d'identifier ou bien qui sont aussi symptomatiques, etc. Avec au fond la question de savoir comment peut-il se faire que tout le monde en parle sans qu'on s'accorde sur le contenu. Ça, c'est tout à fait important de s'en rendre compte parce que c'est ce qui fait communiquer la question des états limites. C'est-à-dire des patients de la psychanalyse contemporaine, des patients pour lesquels la psychanalyse contemporaine a été construite et élaborée, avec une panique morale. Et notamment avec certains éléments de la panique morale qui sont liés à l'angoisse à l'égard des toxiques qui envahit à cause de la multiplication de la disponibilité de la drogue aux États-Unis et puis dans le monde occidental. Et puis, ça c'est le premier point, la drogue, parce que quand même incontestablement, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui des gens qui ont des états limites, ils ont un rapport aux toxiques qui est tout à fait particulier. Or, comme vous savez, Freud refusait absolument de s'occuper des toxicomanes. Hein. Enfin, il refusait de s'occuper de ceux dont on parle aujourd'hui comme étant les patients de psychanalyse contemporaine. Je vous l'avais dit dans la première séance, on sait maintenant qu'il triait ses patients et qu'il envoyait tous les patients qui ressemblent à ce que nous appellerions des patients psychosomatiques ou des borderline, il les envoyait à Federn. Bon. Et on le sait depuis qu'on a la correspondance avec Federn et qu'on a le carnet, qu'on sait qui sont les gens qui ont été envoyés chez Federn. Freud ne se gardait que des gens qui étaient clairement hystériques, clairement névrosés, obsessionnels, des phobiques, quelques paranoïaques, quelques personnes qui avaient des troubles, comme des troubles bipolaires, des psychoses maniaco-dépressives. Mais tous ces cas bizarroïdes, etc., il considérait que ça avait besoin d'un traitement médical et il les envoyait à Federn. Donc, il faut bien se rendre compte que toute la métapsychologie freudienne est construite sur un tri de la patientèle avec délégation des gens qui rentrent pas dans le cadre de ce sur quoi il va travailler à d'autres patients à d'autres cliniciens autour de lui. Alors, j'ai parlé de Green. Pourquoi Green? Parce que Green, d'une part, va introduire une première notion qui est pas lui qui l'introduit, mais c'est celui qui certainement l'a diffusé le plus, en disant il n'y a peut-être pas des états limites, mais en revanche, il y a sûrement des cas limites. L'expression cas limite est, je crois, très intéressant parce que ce sont des cas qui sont des cas limites précisément pour la psychanalyse freudienne orthodoxe. Encore que, à ma connaissance, Green n'ait jamais su qu'une partie de l'explication de ce fait était liée à la manière dont Freud triait sa patientèle. Et que donc, il va s'intéresser aux cas limites comme à chaque fois des cas singuliers qui permettent plutôt d'interroger des questions centrales de la psychanalyse plutôt que de considérer que tous ces cas limites, on peut les ranger dans un même sac, hein, celui des états limites, et se mettre à faire des généralisations psychologiques un peu hâtives dont on n'a pas forcément les moyens. Et il va centrer la question en psychanalyste. C'est pour ça que vraiment, c'est peut-être le plus intéressant autour de cette question des états limites, autour des modifications apportées au cadre. La modification apportée au cadre a un prototype, un paradigme hein, dans la pensée de Green et d'ailleurs dans la pensée de tous les gens qui ont réfléchi dans sa mouvance ou dans le même genre que lui. C'est la fameuse cure de Margaret Little par Winnicott, hein, qui est en quelque sorte, le prototype de tout ce qu'il ne faut pas faire avec un névrosé, mais qu'on est bien obligé de faire avec un cas limite. Bon. Et c'est autour de Margaret Little, ce qui est intéressant, parce que Margaret Little en a parlé, Winnicott en a parlé, etc. Il y a des tas de choses. Ça a circulé. Il y a même, je dirais, toute une littérature noire, hein, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont lu la lettre qui n'est pas publiée, où Margaret Little dirait que, etc. Enfin, moi, j'ai vu des gens se raconter des choses qui ne sont pas dans les livres, hein, au sujet de Margaret Whittle et de Winnicott, et on n'arrive pas du tout à savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais il s'en est passé de belle, hein, ça c'est clair. Ça ne se passait pas comme une analyse de névrosée, ça je vous prie de le croire. Et donc c'est autour de cette question de la modification du cadre qui est une question. Qui est une question psychanalytiquement décente. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire une sorte d'inventer une métapsychologie de manière extemporanée, là, pour ad hoc, à chaque fois, pour rendre compte de trucs bizarres. Il a pu réhabiliter une certaine idée de la destructivité, de la pulsion de mort et du narcissisme, réaborder la question de la réaction thérapeutique négative. Qui est un peu, je dirais, le problème standard des borderline, hein, c'est que les borderline, c'est des gens, dès qu'ils vont mieux, c'est la catastrophe. Hein. Dès qu'ils ont l'impression qu'ils sont en train de guérir, alors là, ils se jettent dans une consommation d'alcool épouvantable, tentative de suicide, des décompensations quasi-psychotiques, etc., au moment, hein, où ils sont censés finalement tirer le bénéfice de leur thérapie. Et quel que soit d'ailleurs le mode de thérapie, hein, c'est très très important, c'est une question qui n'est pas propre à la psychanalyse. Hein. Même les gens qui ont des approches comportementales et cognitives sont stupéfaits, hein, de voir qu'il faut constamment remettre, c'est sur de très très longues périodes qu'on réussit à obtenir des améliorations. Et c'est autour de cette question, donc de ces cas limites, et c'est pour ça que c'est intéressant pour des Français, que est devenue de plus en plus crédible dans la psychanalyse contemporaine l'idée d'une nouvelle synthèse à chercher de Bion et de Winnicott, et qui a en plus chez André Guérin cette décence d'être d'une abstinence parfaite à l'égard de tout jugement moralisateur sur l'époque. Guérin est un des très rares qui ne nous assassine pas de considérations sur le néolibéralisme mondialisé. La crise du capitalisme, etc., hein, et qui se contente de raconter des histoires et de bricoler des concepts en ravivant, hein, cette question de Bion et de Winnicott, c'est-à-dire de poser la question au niveau où elle devrait être posée, au niveau technique. Il y a des cas, on est bien obligé de se poser un certain nombre de questions. Alors, ayant mis en place ce premier moment de ma réflexion, voilà l'hypothèse que je vais déployer ce soir. Si on veut comprendre ce que c'est que la psychanalyse contemporaine, si on veut comprendre à quoi ça sert, toutes ces questions sur la rêverie, sur le contre-transfert, sur un appareil psychique un peu étrange, qui ne serait pas freudien, hein, peut-être qu'il faudrait considérer tout autrement la manière dont des gens comme ça, les états limites, sont arrivés sur les divans. Et donc, il faudrait prendre ces transformations des pathologies sociales du point de vue d'une évolution à très long terme. J'insiste beaucoup, à très long terme. Et carrément pluriséculaire. Pluriséculaire. Qui est de l'émergence, celle de l'émergence et du développement des sociétés individualistes modernes, avec les tensions et les contradictions qui les animent. Bien sûr, une des figures canoniques de cette approche pluriséculaire des transformations et des contradictions internes des sociétés individualistes modernes, c'est Max Weber, hein, c'est le très long processus de rationalisation, bureaucratisation, rationalisation au sens de la rationalité instrumentale qui émerge très progressivement. Il y a les transformations de la sensibilité religieuse, à l'émergence du capitalisme, à la généralisation de la technologie, de la science, etc. Bon. Et puis, une autre piste, d'ailleurs, bon, pas forcément compatible en tout point pour penser ce type d'évolution pluriséculaire, c'est la fameuse approche d'Elias du processus de civilisation, et notamment de ses élèves de l'école d'Amsterdam plus récents, Cas Wouters, hein, dont je vous ai mis en ligne un texte qui raconte un peu qui résume en gros, quoi, les grandes conceptions de Cas Wouters. Et puis de quelqu'un que je ne connaissais pas et que je lis depuis quelques mois avec beaucoup de plaisir, qui est Richard Kilminster, qui est un des membres de ce réseau d'Eliasiens internationaux, qui a un esprit extrêmement lucide sur les enjeux en fait de voir les choses de cette manière-là, à la fois pour la sociologie et pour la psychanalyse, puisque ce sont quand même des gens, les Eliasiens d'Amsterdam, qui font constamment référence et appel à la psychanalyse et qui contestent les utilisations à leurs yeux beaucoup trop faciles qu'on fait chez Giddens par exemple, ou chez Lash bien sûr, de la psychanalyse, où on se sert en, comme ça, hein, c'est du cherry picking comme on dit en anglais, où on se sert en prenant que les choses qui nous intéressent, et pour la sociologie, sans réfléchir à ce que c'est que l'intelligibilité même de la psychanalyse et sa contribution à la réflexivité dans les sciences sociales. Alors l'idée d'Elias, la fameuse idée de civilization process, de processus de civilisation, elle est assez facile à mettre en œuvre empiriquement dans les analyses qu'il fait, mais on peut en résumer assez simplement, je crois, pour les buts qui sont les nôtres, les principaux thèmes, hein, c'est de dire que la modernité en se développant se caractérise par une extension de plus en plus grande des chaînes d'interdépendance entre les individus. Ce dont la division du travail n'est que un cas. C'est la division du travail social au sens durkheimien n'est que un cas de cette extension des chaînes d'interdépendance qui font qu'il n'y a absolument quasiment aucun des objets qui sont devant vous ou autour de vous que vous auriez fait vous-même, que tous se dépendent d'un nombre absolument infini d'acteurs sociaux pour leur usage, leur fabrication, etc., et que tout est produit, que ces chaînes d'interdépendance ne cessent de s'accélérer, transformant en s'accélérant aussi bien des choses que le paysage des villes, que les structures financières des sociétés commerciales, que les modalités de régulation juridique internationaux, nationaux, etc., en produisant cette espèce d'énorme machine hein, qui est celle de la modernité. Une deuxième chose qui est extrêmement importante à marquer, bien que c'est souvent celle qui est la plus contestée parce qu'elle est mal comprise, c'est ce que Elias a fini par appeler la démocratisation fonctionnelle. Ce que Elias appelle la démocratisation fonctionnelle, c'est une tendance qui a ceci de particulier, c'est que c'est une tendance contrariée. C'est une tendance contrariée propre aux sociétés modernes à réduire les contrastes sociaux. Réduire les contrastes sociaux, c'est faire en sorte que de plus en plus, même le très riche et même le très pauvre, de plus en plus, ont des modes de vie relativement homogènes, des types de famille, des manières de s'habiller, des habitudes, etc., qui tendent, hein, par une sorte de mécanisme d'égalisation qui n'est pas sans rappeler la démocratisation au sens de Tocqueville, à se généraliser dans la société, et que en même temps qu'il y a cette tendance contrariée à la diminution des contrastes sociaux, une variété plus grande des choix de vie dans lesquels les individus peuvent être s'orienter différemment, relativement en sécurité dans leurs choix professionnels, leurs choix amoureux, etc., sans trop craindre un jugement violent de la part des autres. Une des applications fondamentales de la théorie de la démocratisation fonctionnelle chez Elias, c'est son analyse de l'État-nation. C'est la façon dont les États-nations modernes ont réussi à se constituer comme des entités intégrant par exemple des conflits de classe, intégrant des particularismes régionaux, intégrant même des tensions linguistiques, etc. Ce qui n'est possible qu'à partir du moment où un certain nombre de contrastes sociaux diminuent et qu'une certaine diversité qualitative du social permet une intégration différenciée. Le troisième pilier, si j'ose dire, de cette approche eliassienne, c'est celui sur lequel auquel j'ai consacré différents travaux il y a une dizaine d'années, c'est le déclin des contraintes externes, hein, à mesure que la modernité avance, hein, et l'augmentation des contraintes internes, hein, de l'auto-contrainte, hein, de la Selbstzwang, qui aboutit, selon la petite note de bas de page que j'ai faite au processus de civilisation dans mes travaux sur la névrose obsessionnelle, parce que c'est une note de bas de page en fait au travail d'Elias, hein, mon travail sur la névrose obsessionnelle, Est-ce que vous avez comme ça des formes de plus en plus ramifiées, complexes, différenciées, sensibles au contexte politique et social de la Selbstzwang, hein, de l'autocontrainte, et que c'est dans ce contexte de l'autocontrainte qu'émerge, sous la plume de Freud, qui crée et le terme et la catégorie, la notion de Zwangsneurose, de névrose de contrainte, comme un phénomène absolument spécifique à la névrose et à l'organisation des sociétés européennes. Qu'est-ce que c'est que cette autocontrainte? C'est, bien sûr, au niveau des individus, quelque chose qui est vécu comme une injonction à être toujours plus autonome, autorégulé et réflexif, qui est, comme Elias le dit, c'est ce qui explique le génie, le coup de génie de Freud, inventant le surmoi. La notion de surmoi, dit Freud, dit Elias, est vraiment le point où Freud a le plus exactement compris que ce que faisait la psychanalyse, c'était produire des instruments réflexifs pour comprendre les transformations des sociétés modernes. Et ça, c'est vraiment un mérite qu'il a écrit énormément sur Freud. Elias est quelqu'un qui est un des créateurs de la psychanalyse de groupe, je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu une connaissance personnelle de la psychanalyse et qui a transmis l'intérêt pour la psychanalyse, hein, aux sociologues qui l'ont approché. Mais, point très important, cette autocontrainte n'est pas quelque chose qui se passe dans la tête des gens. Cette autocontrainte est un horizon normatif d'attente dans les interactions dans la société individuelle. C'est que nous attendons les uns des autres et nous éduquons nos enfants de manière à ce qu'ils se prennent en main eux-mêmes, et nous attendons, souvent d'ailleurs en n'appliquant pas du tout des procédés de violence ou d'inculcation, mais au contraire de dialogue et de douceur, nous attendons que par l'exemple, ils apprennent, hein, à s'autoréguler. Et qu'on n'ait pas besoin de leur dire de faire leur devoir, qu'on n'ait pas besoin de leur dire d'aller se coucher, qu'on n'ait pas besoin, etc. Ce qui fait que le surmoi est pris dans une tension extrêmement particulière, où les modèles traditionnels de l'autorité violente et de l'asymétrie ne sont plus à terme pertinents pour penser la nature même de l'autocontrainte. C'est ça une des tensions qui anime la notion de surmoi et que nous allons retrouver. Donc le travail que j'avais fait il y a une dizaine d'années sur la névrose obsessionnelle, et son déclin, et ses métamorphoses, quand je disais que c'était une note de bas de page à tout ce travail d'Elias, c'est une note de bas de page à ce troisième et dernier point. Et ce que je regrette, c'est évidemment de ne pas pouvoir pu l'articuler aux autres. Mais ce qui est absolument fondamental, c'est que ce que Elias nous a appris à faire, c'est à ne jamais juger d'une structure psychique indépendamment des structures sociales, et à ne jamais juger d'une structure sociale sans penser en même temps ce que cette structure sociale altère, non pas du vécu, mais de la structure même du moi individuel, des psychismes, etc. Ce sont des transformations qui sont systématiquement corrélées, hein, et que il est totalement impossible de parler du moi en général ou de la personnalité en général si l'on ne fournit pas, en plus de la description psychologique, la nature, le niveau de démocratisation fonctionnelle qu'on a atteint, une description soigneuse des types de division du travail et d'attentes normatives sur la coopération entre les individus, et des choses de ce genre. Et, par exemple, la manière dont j'avais construit mon travail il y a une dizaine d'années, ça consistait à dire qu'on peut démontrer que les différentes formes que prend l'expérience de l'obsession et de la contrainte psychique varient co-varient avec les modalités sociales et les attentes des processus sociaux d'individualisation, et ceci depuis l'apparition des symptômes de contrainte intérieure, l'apparition comme un phénomène de masse, comme un phénomène social, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle, jusqu'au TCC contemporain. Donc vous voyez où je veux en venir avec ce rappel, c'est que le même raisonnement pourrait s'appliquer, c'est ce que j'essaie de suggérer, le même raisonnement pourrait s'appliquer à la postérité de la sociologie d'Elias, c'est-à-dire non plus à la névrose obsessionnelle et à l'expérience de la contrainte, mais aux états limites. Et en prenant ces états limites, c'est ça le cœur de pourquoi je vous ai fait lire ce texte de Wouters sur la troisième nature, en disant que les états limites, Il faut les comprendre à l'intérieur de transformations et de co-variations de la société qui en font des pathologies de la troisième nature de Wouters, c'est-à-dire de la société d'après le surmoi, d'après celle qu'a décrit Ignace. Bon. Du coup, ce qu'il y a dans mon propos, si vous voulez, de violemment contre-intuitif par rapport à la façon dont vous pouvez lire aujourd'hui ces choses insupportables, ce discours moralisateur des psychanalystes sur la décadence des adolescents, sur le monde moderne, etc. Ce ne sont pas des pathologies de la crise générale de la personnalité qui seraient attaquées par l'hypermodernité, la fluidité, etc., qui sont des thèmes extrêmement populaires. Mais ce n'est pas parce qu'une idée est sociale que c'est une idée sociologique, c'est juste une idée sociale. Ce sont des crises qui sont induites, la personnalité, l'hypothèse elle est là, hein, la personnalité borderline, le trouble narcissique, certains troubles de la pensée, ce sont des crises qui sont induites par la difficulté à intégrer des règles nouvelles de l'autocontrainte individualiste. Et pas du tout parce qu'il n'y a plus de règles, ma bonne dame, ou qu'il y a un relâchement de la règle sociale, ou parce qu'il y a je ne sais quelle anomie produite par le déchaînement de la force du marché qui s'en prend à la loi symbolique et autres foutaises que vous voyez industriellement produites, commentées, vanté, etc., dans le milieu analytique, absolument pas, mais absolument pas. Il y a tout à fait des règles, hein, simplement, c'était extrêmement difficile, c'est de penser la transformation de ces règles sociales et de penser pourquoi les transformations de ces règles sociales créent le type même de souffrance psychique que nous observons chez un certain nombre d'adolescents, chez un certain nombre de personnes et qui prend cette forme psychologisée du trouble borderline, du trouble narcissique, etc., etc. Donc voilà, c'est ça qui est particulier, c'est que la seule manière, à mon avis, de donner une réponse forte à ce blabla décliniste sur les gamins qui font n'importe quoi, les adolescents, les drogués, etc., c'est de comprendre que la société ne se défait en aucune manière, mais que ce qui est très compliqué, c'est de penser les transformations des règles et notamment des formes de l'autocontrainte qui rendent possible la vie des sociétés individualistes, des sociétés de l'autonomie et de la réflexivité. Et c'est là où intervient, c'est le livre dont j'ai appris par Alex Mignan, hein, qui est là, qui allait être traduit en français, mais qui est un recueil de textes dont beaucoup d'entre eux ont déjà été publiés par Cass Wouters ou Dunning ou Kilminster, etc., et qui est Civilization and Informalization, et qui est un livre, moi j'ai une édition de 2019, hein, et qui se termine par un article, un brûlot absolument génial de Kilminster, qui tire à boulet rouge contre tout simplement les cautions et les sources dans le milieu analytique de cette vision décliniste de la société contemporaine. Contre Zygmunt Bauman, alors il parle même de Maffesoli, je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui lisaient Maffesoli, mais apparemment Kilminster a lu Maffesoli. Il parle également d'Anthony Giddens, sur lequel il a des propos d'une férocité et d'une justesse absolument admirables, hein, parce qu'Anthony Giddens, c'est quand même la classe au-dessus, hein, comme sociologue. Il parle de Lâche, bien sûr. Et c'est vraiment, il y a là quelque chose d'une acuité remarquable sur le fait que pourquoi tous ces gens se plantent. Ben, une des raisons qui va vous surprendre que donne Kilminster, c'est parce qu'ils n'ont rien compris à la psychanalyse. Et ça, c'est quand même assez étonnant de lire sous la plume des plus grands sociologues vivants. Enfin, il n'est pas encore mort, enfin, il n'est pas en bon état, parce que j'ai vu, mais enfin, il n'est toujours pas mort, Cass Wouters, mais c'est quand même absolument stupéfiant, hein, de voir des gens comme Kilminster dire ben, le problème, c'est ça. Quoi, c'est cette façon de sélectionner dans l'analyse des transformations de la psychanalyse uniquement les trucs qui nous plaisent sans comprendre ce que nous disent effectivement les psychanalystes est une des raisons, c'est pas la seule bien sûr, c'est une des raisons de l'insuffisance de l'analyse des choses. Il y a un autre, je le signale en passant, parce que c'est un autre membre éminent du groupe des Éliassiens d'Amsterdam, qui est Abraham de Swann, hein, qui a écrit ce livre très connu sur les génocides, sur l'esprit des génocides, et qui s'appelle Diviser pour tuer. Abraham de Swann, alors lui, il a carrément été membre de l'IPA pendant des années. Il a été psychanalyste praticien et ensuite, il est devenu professeur de sociologie. Il a arrêté sa pratique. Alors, quelle est la thèse que défendent Wouters et Dunning dans ce très grand livre dont vous allez, c'est, vous, Alex va le traduire. Vous allez le traduire vous-même ou bien c'est un groupe de gens? Bon, il faudra que vous l'écriviez, mais Alex, son micro ne marche pas. La thèse, bon, la thèse de ce livre est extrêmement simple, hein, dans son dessin général. C'est que ce que nous a décrit Elias, hein, c'est la très longue phase de formalisation dans l'évolution des sociétés modernes, d'amplification méthodique des contraintes surmoïques de type victorienne, n'est-ce pas, qui étaient absolument nécessaires parce qu'elles accompagnaient l'intensification des contraintes internes, des contraintes surmoyennes, l'abaissement des contraintes externes, la violence physique notamment, la violence physique et l'autorité verticale hiérarchique extrêmement brutale exercée notamment par les pouvoirs étatiques. Donc le déclin des dominations traditionnelles qui deviennent de plus en plus étatiques, de plus en plus abstraites, de plus en plus judiciarisées, etc. Pourquoi? Parce que pour créer le marché, pour créer le monde de l'économie capitaliste, il fallait créer des acteurs du marché, et notamment des acteurs fiables du marché, c'est-à-dire des acteurs disposant d'un niveau élevé d'autocontrainte réflexive et d'autocontrainte des émotions, qui non seulement l'étaient pour eux, mais pour qui c'était une norme et une attente extrêmement forte à l'égard de leurs partenaires sur le marché. C'est que donc une exigence de ne compter que sur l'autocontrôle, qu'il fallait compter sur l'autocontrôle émotionnel d'autrui et sur la réflexivité des partenaires pour que justement la pacification de la violence sociale par le commerce, hein, qui est le grand argument du développement de la sympathie chez les penseurs libéraux, hein, puisse se déployer dans toute sa, et produire tous les effets sociaux qui étaient nécessaires. Et ceci a abouti à des figures idéalisées de l'hyper-contrôle émotionnel, dont le gentleman victorien, avec des figures à Sherlock Holmes, par exemple, hein, sauf encore, bien que ce soit plutôt Edouard bien que Victorien. Mais bon, des figures de ce type-là, du gentleman, n'est-ce pas, qui au visage, qui n'exprime pas ses émotions, et dont, par exemple, voilà, de façon très simple, c'est les romans de Jane Austen, par exemple. Voilà. C'est ce type de personnage avec le contrôle extrêmement intense des émotions qui atteint toute une sphère de la bourgeoisie. Chez Elias, hein, c'est par une diffusion et par une capillarité à partir de la société de cour que deviennent possibles la diffusion et l'éducation des enfants en fonction de ces normes de l'autocontrôle émotionnel et de l'accroissement de la réflexivité. À partir de la fin de l'époque victorienne, se met très lentement en place une phase d'informalisation. Informalisation qui commence avec ce qu'on appelle l'âge d'or du libéralisme en Europe occidentale, les années 1870, et qui se marque par un progrès très lent, au départ très très lent, de deux choses, enfin trois, mais on va surtout insister sur les deux premières. L'émancipation des émotions, l'émancipation des émotions. Tout d'un coup, ce qui devait être absolument contrôlé est tellement contrôlé que l'on peut, dans une certaine mesure progressive, en faire le témoignage public. Une réduction des distances sociales et psychiques entre les individus, notamment entre les hommes et les femmes, au niveau érotique comme au niveau amoureux, et entre les adultes et les enfants, qui implique non pas une diminution de la force des règles qui s'imposent aux gens, mais au contraire, et c'est ça le point fondamental, au contraire, de nouvelles contraintes, de réflexivité et d'autorégulation des émotions au sein de nouvelles institutions soumises à la pression contrariante ou à la tendance contrariée de la démocratisation fonctionnelle, qui atteignent, bien sûr, par exemple, la division du travail, en favorisant, par opposition aux régimes libéraux initiaux, beaucoup plus la coopération que la compétition. Un point très important, c'est que la psychanalyse ne pouvait naître que dans un temps d'informalisation, dans une phase d'informalisation. Parce que sinon, n'est-ce pas, il n'aurait tout simplement été pas possible aux hystériques de dire quelque chose, ni aux névrosés obsessionnels de dire quelque chose. C'est-à-dire de disposer d'une institution minimale, le secret du cabinet, dans lequel l'indicible, c'est-à-dire les émotions, peut quand même être dit. Et que donc l'informalisation, les phases d'informalisation, un des fruits fondamentaux de la phase d'informalisation, c'est la psychanalyse. Et que donc la psychanalyse est habitée et hantée au moment de sa naissance par le motif du surmoi et de la formalisation précédente, c'est-à-dire l'idée qui est absolument omniprésente chez Freud, que s'il n'y a pas de surmoi, on va tous se bouffer, s'entretuer, se cannibaliser, et que le petit garçon va violer sa mère sur le cadavre pantelant de son père. Bon, c'est comme ça qu'il se représente les choses. Il a une façon un peu gore de se représenter le dit Freud, c'est bien connu. En tout cas, vous voyez l'abîme qu'il y a entre cette vision gore de l'Œdipe freudien, n'est-ce pas, violer sa mère sur le cadavre pantelant du père, et puis simplement dans les années 50, c'est un peu de choses, quoi, même pas 50 ans plus tard, un Lacan qui vous représente le petit enfant comme essentiellement séduit par les implicites imaginaires qu'il entend dans le discours de sa mère. On a l'impression qu'on a changé de tribu, hein, que ne s'agit plus des mêmes gens, que c'est plus du tout le même type de conscience. Or, Freud insiste, et Lacan insiste en disant qu'il ne fait que dire la vérité, hein, de la logique mise en place par le dit Freud. Ces phases d'informalisation successive ont fait chez Elias l'objet d'analyse où le mot d'informalisation figure assez rarement, bien qu'on le trouve quand on fait de l'exégèse. Donc il y a la fin de siècle, hein, le moment d'invention de la psychanalyse. Il n'y a pas que la psychanalyse qui est inventée, mais la fin de siècle. Il y a bien sûr les années folles. Il y a bien sûr l'après-guerre, avec un phénomène extrêmement important de l'après-guerre, qui est la nouvelle pédiatrie. Je crois que la nouvelle pédiatrie, c'est un des faits anthropologiques et moraux après 1945 les plus fondamentaux, parce que ça a fabriqué les adultes des années 60-70, hein, cette nouvelle pédiatrie, c'est-à-dire la réhabilitation de l'affectivité maternelle dans la prise en charge des enfants. Hein, ça a été un truc, c'est la fin de la politique du dressage et de la norme de dressage et le début de la norme de l'échange émotionnel entre les mères et leurs enfants. Dont Winnicott, hein, il s'inscrit dans cet extrait. Winnicott, Anna Freud, ça, ce sont des gens qui s'inscrivent à l'intérieur de ces mutations de la parentalité. Puis vous avez, autour des années 60, la révolution sexuelle, le développement du féminisme. N'oubliez pas, quand même, enfin, c'est des choses qui, pour les plus jeunes, sont un peu mystérieuses, mais que un des tremblements de terre occasionnés par Lacan dans les années 60, c'est sa pensée de la femme. C'est que tout d'un coup, la puissance incroyable de sa conception du féminin, de la sexualité féminine, de la construction de la question de la jouissance féminine, etc., va être une espèce une source explosive de choses qui ont été appropriées par les féministes de l'époque. Il y a quelqu'un, Sophia Batko, là, qui a participé à différents travaux de traduction l'an dernier, qui a fait une mémoire maîtrise là-dessus. C'est extrêmement frappant, hein, de voir la puissance du dialogue entre Lacan et les féministes de l'époque. Et puis, ce qu'on appelle, à partir des années 80 et 90, la révolution expressive, dans lequel c'est plus simplement que vous avez le droit de manifester vos émotions, c'est qu'il devient absolument normatif de manifester ses émotions. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne manifeste pas ses émotions fait carrément bizarre, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la relation avec les enfants, et même, hein, comme ça a été bien repéré par Capello et Boltanski, y compris dans l'appropriation dans le monde du travail des idéaux 68 arts comme une modalité particulière de régulation des échanges de travail dans les nouvelles formes de société dans lesquelles nous vivons. Ce que je trouve fascinant, c'est que vous avez là les conditions même du trouble narcissique et borderline que l'on peut très facilement, vous allez voir, c'est même tellement facile que ça me stupéfie que ça n'ait pas été fait avant moi, montrer qu'il s'agit de problèmes d'assimilation de ces nouvelles modalités du relâchement contrôlé du contrôle. Ce que, qui est une traduction possible, je ne sais pas si ils adopteront, de control decontrolling, hein, chez Wouters, Denis, etc., qui est un relâchement contrôlé du contrôle, qui permet donc l'expressivité, la communication des émotions, l'attention réflexive à la réflexivité d'autrui, des modalités extrêmement fines de coopération médiées par des implicites, etc., et qui supposent non seulement des institutions nouvelles, avec des règles nouvelles, des manières nouvelles d'y être initiées par des apprentissages spécifiques, hein, mais qui crée immédiatement des gens qui ne vont pas pouvoir assimiler ces règles nouvelles du relâchement contrôlé du contrôle. Et qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là? Eh ben, soit ils vont hyper contrôler, donc c'est ce que j'ai appelé, c'est ce que j'ai décrit dans mes travaux au niveau des transformations du sentiment de contrainte, des tocs, etc., hein, qui apparaissent à des moments très spécifique, hein, la caractéristique des TOC, la grande différence entre les TOC et les troubles et les névroses obsessionnelles freudiennes, c'est que les névroses obsessionnelles freudiennes, ils sont pas dépressifs, hein. Tandis que les TOC sont tous, absolument tous dépressifs. C'est vraiment un problème de la performance, quoi. D'ailleurs, il suffit de leur donner les antidépresseurs et c'est presque, et le médicament est censé être efficace sur les deux, hein, sur les TOC et sur la dépression. Mais il y a aussi les gens, eh ben, qui sont incapables de réguler leur affectivité dans le rapport à autrui, qui craignent donc de s'effondrer dépressivement. Il y a les gens qui sont incapables de mesurer dans leurs agirs sociaux les justes proportions et les justes distances qu'il convient désormais d'adopter et qui apparaissent dans les cas extrêmes, hein, sur la courbe de Gauss, qui apparaissent comme des êtres pathologiques du point de vue de cette troisième nature. Alors, c'est des règles, ce qui est vachement intéressant, c'est que ce sont des règles qui ne sont pas faciles à identifier, les nouvelles règles. En tout cas, à travers les générations, elles ne sont pas faciles à identifier, puis comme ça va assez vite, on peut même soupçonner que c'est assez difficile de les apprendre de ses parents. Ce sont des règles pourtant de plus en plus exigeantes et de plus en plus fines qui permettent le control, dit controlling, et que le but qui est visé, et ça, c'est ça qui est paradoxal et c'est ce qui induit en erreur la plupart des gens, c'est l'apparence de fluidité. C'est comme si vous ne suiviez aucune règle. Bien qu'on a souvent résumé la position de Wouters en disant qu'il avait parfaitement bien vu que ce qui était attendu de l'homme moderne, c'est la coolitude, c'est d'être cool, voyez, c'est-à-dire c'est cool, voilà, tu ne veux pas coucher avec moi, c'est pas grave, c'est cool, on est cool, tu vois, c'est tout est, tu me fous dehors là parce que tu es, etc. Oh, très bien, au revoir, à bientôt, hein, c'est la coolitude dans la gestion. Et que celui qui se commence à se coincer, est en infraction directe avec ces nouvelles règles extrêmement sophistiquées et subtiles, et qui d'une certaine manière présentent une exacerbation du surmoi, on pourrait appeler ça une exacerbation du surmoi, hein, beaucoup plus minutieux dans ces, hein, qui permettent de dire, mais tu sais, je suis vraiment furieux, hein, que tu n'ailles pas coucher avec moi. Hein. Je te le dis, hein, je te le dis franchement, sincèrement. Hein, je t'ouvre mon cœur, tu me fais vraiment pleurer. Quoi. Et ça, c'est possible de le dire. Voyez, et que cette possibilité de négocier l'expression des émotions tout en la gardant sous une forme hyper contrôlée, implique justement que des gens n'y arrivent pas et que c'est ceux-là qui ont l'air d'être des malades. Alors, cette horizontalité croissante qui touche, je sais pas, les relations de travail, alors, l'implication émotionnelle fluide dans des tâches qui sont toujours plus spécialisées et raffinées, hein, puisque dans le monde moderne, un grand nombre de la richesse, une quantité énorme de richesse sociale qui est produite, il est produite non pas en travaillant sur des objets matériels, mais en travaillant sur les relations sociales elles-mêmes. C'est absolument central dans les ressources humaines, dans l'administration des gens, dans le commerce, etc. Et que ça aboutit, entre parents et enfants, à des politiques explicitement et revendiquées comme anti-autoritaires, aussi bien entre les sexes, hein, où on assiste aujourd'hui à une extraordinaire des manifestations extraordinaires dans les guerres des sexes contemporaines, et entre les parents et les enfants. Or, ce qui me paraît, ce qu'il ne faut pas oublier, qui fait justement la force des analyses de ce groupe de sociologues néerlandais, c'est que pour rendre ce control decontrolling possible, ça n'est possible que s'il y a des transformations institutionnelles, des institutions nouvelles qui se mettent en place, des étiquettes, des institutions thérapeutiques, des trajectoires compensatrices pour les ratés de l'informalisation. Et c'est là où vous vous dites tout d'un coup, mais qu'est-ce que nous avons avec les troubles borderline, avec la personnalité narcissique, toutes ces choses-là qui tout d'un coup affolent les gens à la fin des années 70 en leur disant, c'est incroyable, les gens changent. Hein. Comme dit Lash, n'est-ce pas, le bon vieil individualisme américain, hein, est en train de s'effondrer sous les coups de boutoir de nouvelles normes de sociabilité, de rapports entre les hommes et les femmes, les enfants, le travail, la politique, etc., qui sont inimaginablement niaises. Bon. Eh bien, moi, je crois qu'un bon moyen de se rendre compte de ce que c'est que les nouvelles contraintes qui émergent dans les années 80, les nouvelles règles, c'est d'aller chercher les premiers traitements explicitement proposés des troubles borderline. Alors, parce que moi j'ai une idée, alors peut-être que c'est une lubie, mais j'y tiens avec une force absolument extrême, hein, c'est que moi je considère qu'une pathologie psychique n'est jamais identifiée qu'à partir de sa proposition de traitement. Ça n'existe pas une pathologie psychique toute seule qui n'est pas identifiée, qui n'apparaît pas avec une proposition de traitement qui la spécifie. C'est toujours les deux qui apparaissent en même temps. Il n'y a pas cette espèce de retard entre la découverte d'un microbe et la découverte d'un antibiotique. Quand on découvre l'hystérie, c'est qu'on a des femmes à hypnotiser. Ça, ou psychanalyser. Faut vraiment garder ces choses ensemble. Donc, tout de suite, va apparaître avec la catégorie même d'état limite, de borderline, une thérapie mise en place par une célèbre psychologue américaine qui s'appelle Marsha Linehan et qu'on appelle la DBT, la Dialectical Behavior Therapy, qui est une forme un peu particulière de thérapie cognitive complétée d'exercices entre guillemets dialectiques, hein, c'est-à-dire voilà, hein, il y a écrit Marx dans les livres de Marsha Linehan, mais en gros Marx pour elle c'est juste que faut gérer les contradictions, hein. Ça, faut pas non plus rêver. C'est pas une grande intellectuelle. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que c'est elle qui introduit et qui met dans le circuit la question de la mindfulness, hein, qui a été après, c'est diffusé de façon absolument incroyable, hein, les états de travail sur les états de conscience modifiés, la méditation. Le néo-bouddhisme thérapeutique qui a des effets absolument désolants sur la qualité de la psychopathologie française, mais enfin bon, c'est une autre histoire. Ça vient de Marsha Linehan. Alors, quand vous ouvrez ces manuels et que vous regardez ce que on cherche à obtenir comme effet, il faut que vous alliez les voir, hein, parce que je vais pas vous les faire la liste, etc. Il y a une liste de skills, d'habileté, de technique sociale à maîtriser. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de meilleure illustration de ce qu'est et de ce en quoi consiste la troisième nature de Peters que la liste des skills à maîtriser pour sortir de l'état de borderline. Ce sont littéralement les nouvelles compétences qui manquent au borderline et qui les empêchent d'être des individus normaux. Alors, une chose à dire sur le DBT, c'est que c'est une thérapie très intéressante parce que c'est une thérapie cognitive et comportementale extrêmement pratique, pragmatique au sens américain du terme, hein, c'est-à-dire que ça vise l'efficacité, l'utilité, etc. Et que du coup, elle met à nu des implicites pratiques qui sont masquées partout ailleurs par un déluge de théories psychanalytiques ou je ne sais quoi. Là, vraiment, vous avez ce qu'on veut faire aux gens et ce qu'ils n'arrivent pas à faire est mis, je dirais, à la surface avec une sorte de crudité qui est saisissante et qui est extrêmement loin du travail des psychanalystes qui essaient de se mettre d'accord sur une théorie du narcissisme ou de la pulsion de mort, etc. Et ces adresses et ces habiletés, elles sont socialisées. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux dans une DBT. Hein. Il y a le niveau de la thérapie individuelle et il y a le niveau du groupe. C'est absolument, de façon structurée, quelque chose qui est organisé en thérapie individuelle, thérapie de groupe. Et avec une troisième chose, qui était une très grande originalité à l'époque du travail de Marshall Linehan, c'est que les thérapeutes eux-mêmes travaillent en groupe. C'est-à-dire que la supervision des thérapeutes des groupes de thérapie de la DBT, alors c'est pas des groupes balint, hein, mais réfléchissent en groupe à la manière dont eux-mêmes sont amenés à intégrer et à souffrir des contradictions, des violences et notamment de l'échec et de la répétition des échecs chez leurs patients. On ne saurait mieux décrire ce que c'est que la démocratisation fonctionnelle au niveau d'une institution thérapeutique. C'est vraiment une manière de permuter sans cesse la position de celui qui a besoin de soins et de celui qui donne le soin pour produire un effet d'intégration sociale qui met toujours en question celui qui n'a pas de supériorité dans le fait de la donner parce qu'en fait, il est impliqué dans la reconstruction de la relation. Alors, c'est évidemment des technologies d'auto-manipulation des émotions hein, qui sont mises en œuvre, hein, c'est du comportementalisme, mais c'est un comportementalisme extrêmement fortement socialisé par la théorie des groupes. Alors, je crois qu'il y a trois piliers qui dans lesquels vous reconnaissez, alors même dans le détail, c'est bien plus précis, hein, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est l'auto-encouragement, hein, c'est de permettre aux gens hein, de s'auto-encourager, de prendre soin d'eux-mêmes, c'est le self-respect, ça c'est vraiment le premier pilier sur lequel ça repose, c'est-à-dire de exactement ce qui concerne tous les troubles narcissiques. La deuxième chose, c'est l'acceptation de la réalité, et notamment de la réalité d'autrui, ce par quoi la technique d'auto-manipulation qui est recommandée, c'est la mindfulness, hein, la conscience éveillée. Et puis, la troisième chose, c'est un truc qui aurait fait éclater de rire Elias s'il avait lu, le pauvre, c'est les easy manners. Ce qu'on apprend dans ces groupes-là, c'est les easy manners. Je ne sais pas comment le traduire. C'est pas les bonnes manières. C'est pas les bonnes manières. C'est la coolitude. Voilà. Ce qu'on apprend, c'est fondamentalement à être cool. Voilà. Et alors, c'est évidemment, comme on ne peut pas le dire comme ça dans les manuels de psychiatrie, on appelle ça, par exemple, la non-judgmentality, c'est-à-dire apprendre à ne pas porter de jugement sur autrui, pas plus qu'on en porte sur soi-même. Alors, avec un petit peu de christianisme évangélique par-dessus, ça passe d'autant mieux. Et surtout, à ne jamais faire une chose, c'est à se comporter comme si on suppléait au surmoi déficient d'autrui. Alors ça, jamais. Ne jamais. Il faut apprendre. Voilà. Alors évidemment, pour les vieux croutons comme moi qui laissent pas leurs enfants, qui n'ont pas élevé leurs enfants comme ça, ça fait un drôle d'effet. Moi, j'ai toujours considéré qu'en fait, les enfants, on les élève en suppléant à leur surmoi, quoi, parce que ça les protège d'un débordement de jouissance. Enfin, c'est voilà. Alors là, c'est complètement terminé. Ça, ces choses-là, vraiment, c'est vraiment vieux. Hein. La troisième nature, c'est au contraire hein, de s'abstenir de cela, c'est-à-dire de créditer a priori autrui d'une structure d'autonomisation et de réflexivité. C'est en le créditant a priori d'autonomie et de réflexivité qu'on l'a. C'est une chose que j'essayais de décrire, mais je pense maintenant partiellement ou maladroitement en disant que l'autonomie était devenue une condition. C'est-à-dire que c'est tellement identique avec la dignité humaine que l'autonomie, ce n'est pas quelque chose que vous acquérez, c'est quelque chose qu'on doit vous, toujours vous supposer avant qu'on ne vous le fasse acquérir. Alors, ce que je ferai la prochaine fois, c'est de vous montrer combien la psychanalyse contemporaine a hérité d'une autre manière, mais enfin, a traité d'une autre manière, précisément ce problème-là. Un type de souffrance dont on ne peut pas dire qu'il ressemble aux souffrances de la névrose viennoise, assure-moi, de la seconde nature d'Elias. La psychanalyse contemporaine, elle a hérité d'un type de société, de division du travail, de rapport entre les hommes et les femmes, de politique, de famille, etc., qui est celle de la troisième nature, qui produit des types de souffrances qui sont absolument hétérogènes. Et ce n'est pas du tout parce que le monde dégénère, ce n'est pas du tout parce que la règle sociale s'affaiblit, c'est au contraire, parce que peut-être même que la règle sociale se raffine et se transforme de façon absolument fascinante. Et ce que je montrerai la prochaine fois, c'est que si on veut comprendre les pratiques de soins, à qui s'adresse au fond la psychanalyse contemporaine, il faut avoir égard à cet environnement historico-social. En conclusion, ce soir, je voudrais dire deux choses. En conclusion, je voudrais dire trois, quatre choses. Il y a deux précautions que je voudrais vous signaler par rapport à ce que je viens de vous raconter. Il y a deux précautions à prendre. Et puis, il y a deux perspectives qui pourraient être des perspectives de recherche sur la manière dont on doit faire, à mon avis, ce travail réflexif sur la psychanalyse pour comprendre ce qu'elle est, comment elle se transforme et surtout comment elle prend sa place dans le champ de la réflexivité sociale et philosophique contemporaine. Alors, la première chose que je voudrais dire, le premier avertissement, c'est que le grand schéma général de Wouters, hein, c'est l'idée très éliassienne qu'après une très longue phase d'informalisation, de formalisation, hein, on a commencé une phase d'informalisation qui s'étend et qui s'accélérerait aujourd'hui. Mais dans le détail de la chronologie, dans le détail de la chronologie, il faut bien se rendre compte que formalisation et informalisation sont pas simplement ne décrivent pas simplement deux grandes ères du développement des sociétés modernes. Elles sont une pulsation interne à chacune de leurs transformations. Autrement dit, il n'y a d'informalisation possible que sur la base d'une formalisation préalable. C'est parce qu'il y a d'abord un certain état stabilisé, un degré de la différenciation sociale qui est tenu comme absolument acquis et qui ne bougera plus, qu'un certain degré d'informalisation, vécu d'ailleurs comme de la permissivité, est possible. Il y a de la permissivité possible, parce que comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, si quand vous prenez, c'est un des objets les plus fascinants qu'ont examiné les gens d'Amsterdam, vous prenez les soutiens-gorge. Bon. Si on avait une véritable histoire du soutien-gorge, je crois qu'on aurait fait des progrès absolument considérables sur la compréhension de la nature humaine. Parce qu'en fait, l'histoire du soutien-gorge, elle est fascinante. Comment on est passé du corset, hein, au relâchement contrôlé du corps féminin, qui permet aujourd'hui non seulement de ne plus avoir du tout de soutien-gorge, mais même de remplacer le soutien-gorge par le gainage, par des exercices physiques de gainage. Comment quelque chose qui aurait paru d'une obscénité infinie au XIXe siècle, a fini par devenir la norme de la santé au XXe. Vous avez là des. C'est tout simplement parce qu'on peut faire des publicités. Vous baladez dans la rue et vous regardez les publicités pour les soutiens-gorge et les strings de Chanterelle, des grandes marques étaient dans la rue, qui seraient des choses qui auraient, dans les années 50, dans un état du sud des États-Unis, amené le publicitaire en prison. Et ceci en un délai de temps extrêmement rapide. Et c'est tout simplement parce que on s'aperçoit que la stabilisation le calme avec lequel nous envisageons les objets érotiques dans le monde qui nous environne est le contrôle de nos émotions est devenu tellement puissant que nous pouvons décontrôler nos émotions. Et un exemple que j'aimais bien donner quand je faisais cours au lycée, par exemple, c'est que un cours à l'université au Moyen-Âge, un cours à l'université ne peut pas durer plus de 20 minutes. Pas durer plus de 20 minutes parce qu'au bout de 20 minutes, les étudiants, ils ont absolument besoin de sortir pour aller pisser, pour aller boire, pour aller, etc. Bon, c'est complètement impossible de faire tenir quelqu'un 20 minutes. Donc, les portes sont nécessairement ouvertes et les cours ont lieu dans des espaces ouverts. Quand vous voyez aujourd'hui que des gamins de 15 ou 16 ans sont capables d'écouter un cours de philosophie de Castel de 2 heures, hein, sans bouger, assis sur leur chaise, etc., vous avez l'impression que l'humanité a muté. Hein. C'est-à-dire que rendez-vous compte de l'incorporation extraordinaire de l'autocontrôle moteur qui atteint. Enfin, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que ça touche même la façon dont notre cerveau est constitué. Hein, faut pas être antinaturaliste comme ça. Oui, c'est absolument extraordinaire de voir comment ces phénomènes se sont passés. Qu'on puisse, c'est un exemple qu'a aussi Elias. J'aime bien le donner parce que ce sont des choses qui rendent plus concrètes que ce dont je suis en train de parler. Qu'on puisse mettre 100 000 personnes dans un stade et qu'il n'y ait même pas quelqu'un qui ait un pied foulé. Hein, 100 000 personnes dans un stade à hurler pour le PSG ou pour Marseille, comme ça, il faut bien se rendre compte qu'une fête d'étudiants à Paris au XVIIIe siècle, en dessous de 15 morts, c'est qu'on ne s'est pas amusé. Le nombre de jeunes qui finissent sous les coups de bâton des magistrats du guet au XVIIIe siècle, c'est ahurissant. C'est la preuve qu'on s'est bien amusé, qu'on a vraiment bien bu, qu'on a fait vraiment des crasses aux profs, aux bourgeois, etc. Un carnaval, le tarif du carnaval au XVIIIe siècle, c'est 10 à 15 morts par jour de carnaval, battus par la police, avec des accidents épouvantables, défenestrés, etc. Donc ça, je crois que cette espèce de modification, de formalisation incroyable qui rend possible ce qui nous paraît inquiétant quand même, tous ces gens qui hurlent dans un stade, est tout à fait. Et ce que nous appelons le hooliganisme, par exemple, mais c'était l'état normal, le hooliganisme est l'état normal d'une course de chevaux ou d'une fête publique jusqu'au XVIIIe et même au début du XIXe siècle, hein, avec vraiment des castagnes monumentales. Donc, chaque fois qu'il y a ces moments d'informalisation, ils reposent sur une formalisation préalable. Mais aussi, et c'est ça que je trouve très joli dans les travaux empiriques du groupe d'Amsterdam, ils aboutissent toujours à une reformalisation explicite, une re-ritualisation qui encode en quelque sorte le gain d'expressivité et de naturel qui a été gagné par l'informalisation et qui l'encode en produisant de nouvelles formes pour le flirt, pour les rapports aux morts, la façon de se dire bonjour dans la rue, pour la façon de se saluer au travail, pour la façon de, etc., etc. Il y a une re-ritualisation qui est un mouvement donc cyclique, hein, formalisation, informalisation, reformalisation. Sauf que la reformalisation n'est pas du tout pour prévenir la régression à la barbarie, elle est pour encoder le gain supplémentaire d'expressivité et de naturel auquel on a lieu. Et donc le grain fin des tendances sociales auquel on examine est une sorte de pulsation dialectique. Qui fait, mais ça c'est vraiment la chose, je crois, une chose vraiment importante à marquer, qu'il est très difficile de porter un diagnostic sur le contemporain. Pourquoi? Parce que la situation contemporaine est fondamentalement toujours, quand vous l'examinez, quand vous êtes prise dedans, une situation pleine d'ambiguïté. D'un côté, vous avez incontestablement, sous la pression des forces économiques, par exemple, une pression qui va dans le sens de la dérégulation. Qu'est-ce qui fait que la dérégulation est vécue comme aliénante, comme destructrice? La dérégulation est vécue comme destructrice quand les gens qui sont exposés à cette dérégulation ne bénéficient pas déjà de formalisations préalables qui leur ont fait acquérir les moyens d'une nouvelle permissivité. Ça, c'est vraiment, je crois, un truc qui est très, très important. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, regardez par exemple des questions comme les travailleurs indépendants. C'est extraordinairement difficile de savoir si c'est un gain d'autonomie, de liberté, etc., ou si c'est un procédé du capitalisme contemporain pour contemporain, non pas du tout pour qu'il y ait un gain de démocratie fonctionnelle et d'égalité, mais au contraire, un meilleur de créer de l'exploitation, par exemple, les chauffeurs de taxi, centres pas sociaux, des VTC, des choses de ce genre-là. Et en même temps, quand on interroge les gens qui sont des VTC, beaucoup vont vous dire que c'est un gain pour eux. Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est que quand on est trop près de la cible, et quand on n'a pas vu comment se stabilise historiquement, se reformalise et se re-ritualise ces gains apparents de spontanéité, de liberté, d'autonomie, etc., et ben, on ne sait pas de quel côté ça va basculer. Ça va basculer d'autant que, comme vous savez, les États libéraux sont... Le libéralisme moderne est confronté à un paradoxe, hein, et le paradoxe sur lequel réfléchissent tous les penseurs politiques libéraux, c'est que pour créer les conditions de la liberté individuelle, il faut des États extrêmement forts et même des États très autoritaires, hein, pour casser ce qui empêche les structures sociales, économiques, politiques d'être vraiment libres. Et que donc les penseurs libéraux sont toujours confrontés à ce paradoxe que pour qu'il y ait moins d'États, il faut qu'il y ait toujours plus d'États. Sauf que quand il y a toujours trop d'États, alors il faut encore qu'il y ait moins d'États, mais pour qu'il y ait moins d'États, il faut qu'il y ait plus d'États. Alors ça tourne en rond sur le mode d'une sorte de combinaison entre irruption étrange de pratiques hyper autoritaires et normatives dans les États libéraux et déclin systématique du type de liberté que ces États libéraux sont censés apporter. Il faut toujours plus d'États pour qu'il y ait toujours moins d'États, ce qui les met en tension. En tout cas, ça complique l'appréciation des choses, et quelqu'un comme bien loin de voir dans les processus d'informalisation une sorte de loi de l'histoire, ce que ça veut dire, c'est que ces processus d'informalisation ne sont pas téléologiques, n'est-ce pas? C'est que ça ne va pas. C'est qu'à chaque fois, il y a une véritable lutte, hésitation, tendance contrariée qu'on ne peut identifier sociologiquement que quelles tendances sont contraires. Ça veut donc dire, et marquez, je marque bien, je reviens sur ce que j'ai dit au début de mon exposé, qu'il y a bien une place pour l'approche décliniste. Il y a une place. C'est pas une illusion ou une lubie. Vous voyez, il est tout à fait possible qu'il y a une approche catastrophiste de la crise des psychismes modernes, de l'angoisse, de l'atomisation, etc., parce qu'il est assez facile d'identifier le caractère pathogène de certaines injonctions à l'autonomie. Autonomisez-vous, soyez libre, créez votre propre entreprise. Les chômeurs n'ont qu'à créer leur propre entreprise. Enfin, vous savez, les fameux propos thatchériens, enfin, vous ne connaissez pas parce que vous êtes trop jeune, mais les propos thatchériens des années 80. Quoi. Ben, les chômeurs, ils n'ont qu'à créer leur entreprise. C'était une chose qu'on vous disait comme ça. Bon. Donc, cette injonction pathogène à l'autonomie, sans les institutions collectives qui assurent le backup, comme dit Wouters, c'est le backup de cette informalisation. Mais en même temps, si vous voulez éviter le déclinisme catastrophique, il faut placer l'ensemble de ces phénomènes d'injonction à l'autonomie à l'intérieur de ces grands moments d'informalisation, en considérant que du coup, nécessairement, ça va produire des individus incapables d'assimiler les nouvelles règles. Le deuxième caveat que je voulais donner en conclusion, c'est que tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui repose sur d'immenses enquêtes empiriques qui ne valent que par les parallèles qu'ils établissent. Alors, par exemple, Wouters a énormément travaillé à partir de manuels de sexologie, etc., sur la transformation à long terme des pratiques dans sex and manners, des pratiques érotiques et amoureuses des couples, notamment aux Pays-Bas. Il y a des travaux absolument remarquables sur le mourir et le deuil. Comment on meurt? Comment on meurt? Les transformations absolument incroyables des pratiques de deuil, du rapport à la mort, de ce qu'on dit, des notices nécrologiques, etc., avec des enquêtes quantitatives considérables à travers toute l'Europe pour essayer d'appréhender ce type de tension, qui bien sûr font signe à l'arrière-plan vers la paire freudienne amour-deuil, hein, parce que ce sont tous des lecteurs de Freud et tous des lecteurs de psychanalyse. Et puis, bien sûr, des travaux extrêmement importants sur les crises des États-nations, sur la façon dont les classes sociales ont été intégrées dans les États-nations, sur la guerre froide et l'âge nucléaire, comme sédimentation du rapport entre les États-nations, etc. Et donc, de tout ce qui a fait de la démocratie, non plus un régime politique, mais un état des mœurs dans le monde moderne. Alors maintenant, j'en viens aux perspectives qui vont m'intéresser la prochaine fois. Pour revenir sur la psychanalyse contemporaine. La première, c'est quelque chose qui pourrait se décrire comme ça à partir des résultats de toutes ces enquêtes empiriques. C'est que nous assistons certainement à une réduction croissante en phase d'informalisation de la distance à la fois sociale et psychique, non seulement entre les hommes et les femmes, mais entre les parents et les enfants. Et que ceci ne peut par un effet mécanique et systématique, que produire une crise de l'ancienne Édipe. Ce que je veux dire par crise de l'ancienne Édipe, c'est que le temps scandé de la symbolisation des rôles sexuels, des rôles générationnels, du rapport au père, ce temps extrêmement scandé lors de la seconde nature, avec le déclin du concept d'Édipe et du complexe d'Édipe et la formation du surmoi, c'est précisément ce qui est radicalement remis en cause dans le monde de la troisième nature. Avec des phénomènes dont il n'y a pas lieu de croire que ce sont des phénomènes pathologiques, ce sont des phénomènes qui sont liés à la plasticité humaine. Il est très probable que la réduction de la période, du temps de la période de latence, que la puberté précoce, ne s'explique pas uniquement par les hormones, des choses comme ça, mais aussi par des transformations sociales, de nouvelles attentes sur l'autonomisation, l'affirmation, le sentiment que les enfants peuvent avoir de ne pas être si loin des parents. C'est aujourd'hui extrêmement courant de voir une petite fille de 10 ans se demander quand est-ce qu'elle va connaître son premier grand amour, avoir ses rapports sexuels, etc., et à attendre à 10 ans que la vie commence. La vie commençant est une vie pensée sur le modèle de ces grands adolescents et de ces adultes qui l'environnent, par exemple. C'est accompagné, cette transformation de l'Œdipe freudien, d'une grande anxiété des parents, angoisse elle-même plus précoce à l'égard des rapprochements physiques avec les enfants. Et que, du coup, pour les parents, c'est beaucoup plus tôt qu'il va falloir apprendre à ne pas serrer ses enfants complètement contre les bras, à les traiter de plus en plus comme de petits adultes de plus en plus tôt, avec des modifications extrêmement importantes qui augmentent avec les générations, du dialogue, de l'écoute émotionnelle, de se mettre sur le plan des enfants, etc. Il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle les borderline personnalités narcissiques, mais ce sont les enfants de ces parents-là. Les enfants de ces parents-là, ce sont les enfants de la génération de l'expressivité, c'est-à-dire de couples égalitaires où il a pu paraître à ces adultes tout à fait normatif que d'exprimer explicitement et devant tout le monde les conflits qui les déchirent, tout simplement parce que l'expression de leurs conflits est une norme d'authenticité qui fait partie des conditions d'existence du couple et que ceci change profondément la perception que les enfants peuvent avoir du conflit parental lorsque, comme disent tous les gens qui ont approché des borderlines, ils ont l'impression que les borderlines, ils ont été exposés à une hypersexualisation des rapports avec leurs parents, qui se disputaient, que les parents se disputaient de façon absolument explosive, que d'ailleurs dans le transfert avec les borderlines, très rapidement, ce sont des situations explosives qui se mettent à se reproduire et qui renvoient à des scènes dont on a quand même envie de penser que ce n'est pas de pur fantasme, hein, ce qui s'est passé entre les parents, etc. Et donc, dans ce vaste mouvement d'égalisation, de réduction des contrastes et d'amplification de la palette des choix, toutes sortes de configurations nouvelles se mettent en place qui rendent la manipulation du bon vieux concept d'Œdipe freudien très problématique. On a l'impression que les gens ne sont plus œdipiens, mais qu'ils sont narcissiques. Donc ça, c'est une manière psychologisante, vous voyez, de ne pas se rendre compte de l'immense reconfiguration des formes de l'autocontrainte et de la socialisation individuelle prise sur le très long terme et dans toutes sortes d'axes de vie. Alors, il y a une chose que je vous fais remarquer, et une chose que Wouters insiste beaucoup là-dessus, qui est une des conséquences de la démocratisation fonctionnelle, c'est que dans ce monde de la troisième nature, la démocratisation fonctionnelle fait qu'il est pratiquement impossible, et même il est au fond fondamentalement impossible, il y a une chose qui est impossible, il y a un impossible, c'est de se déclarer supérieur. On ne peut pas, dans le monde de la troisième nature, se déclarer supérieur. C'est ça, l'effet de la tendance, vous pouvez l'être, hein, vous pouvez le savoir pour vous-même, mais c'est tout à fait impossible de se déclarer supérieur à autrui. Et ça, évidemment, c'est, je crois, le cœur des pathologies narcissiques. Le narcissique, c'est celui qui ne sait pas comment ne pas se déclarer supérieur à autrui ou absolument inférieur à autrui, ce qui est la même chose, puisque si vous vous déclarez supérieur, vous reconnaissez en même temps des formes d'infériorité, vous entrez dans ce type. Or ça, c'est vraiment quelque chose qui est bloqué par le type de socialisation caractéristique de la troisième nature. Eh bien, j'ai une hypothèse là-dessus que je vous propose, c'est un peu une hypothèse culturelle comme ça, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a certaines formes de ritualisation possibles de la déclaration de sa supériorité. Par exemple, j'en donnerai une qui me paraît auquel vous avez sûrement pensé, c'est de considérer que cette espèce de calamité littéraire pour les gens comme moi qu'on appelle l'autofiction, que l'autofiction qui est un genre littéraire industrialisé dans le monde moderne, qui fait que, comme disent méchamment les éditeurs, aujourd'hui on a plus de manuscrits d'autofiction que de gens qui achètent de livres, on est dans l'édition, est une école morale dans laquelle se codifient progressivement des manières de se dire supérieur ou inférieur. Voilà. Je pense également, il y a un deuxième axe qui serait intéressant sociologiquement à explorer, c'est qu'un des usages des réseaux sociaux, c'est justement de faire valoir, bien au-delà de la différence des styles de vie, il y a des manières, notamment par le travail de l'image sur Instagram, ou par des formes d'humour ou de popularité qu'on gagne comme ça sur les réseaux sociaux, une manière de codifier progressivement la possibilité de se dire supérieur ou de se dire inférieur. En tout cas, c'est une des dimensions des choses qui sont en train de se passer. Il y a un travail moral extrêmement subtil qui est en cours et qui vise précisément à la possibilité de ritualiser des affirmations de soi. Alors, je le lis au narcissisme parce que le reproche habituel qu'on fait à l'autofiction, enfin ce que font des gens de ma génération à l'autofiction dans la littérature, c'est que c'est insupportablement narcissique. Comme si on en avait à foutre quoi que ce soit de ce qui est arrivé à Bidule ou à Machin ou à Machinette. Bon. C'est insupportablement narcissique et en même temps, c'est assez significatif une réaction de ce genre. C'est que peut-être on sous-estime qu'en fait, c'est un narcissisme qui se recodifie en permettant une évolution de la troisième nature, une évolution dans laquelle les formes d'affirmation de la supériorité ou de l'infériorité deviendrait dissible. C'est-à-dire qu'on aurait un tel contrôle du fait que nous sommes tous égaux qu'à l'intérieur de cette égalité, il deviendrait possible de décontrôler sous contrôle nos affirmations de supériorité ou d'infériorité. Et que là, il y a quelque chose de très subtil qui se passerait au niveau, à ce niveau-là. En tout cas, vous voyez que ces choses-là permettraient un regard plus distancié et plus objectif sur les conditions générales qui font arriver sur les divans un certain nombre de gens qui ont des difficultés avec ça, qui ne sont pas les difficultés du monde de Freud, les difficultés viennoises, mais qui ne sont pas non plus les difficultés d'un monde sans règles, mais au contraire d'un monde où les règles sont beaucoup plus précises, beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus sophistiquées à intégrer, beaucoup plus exigeantes en termes de contrôle et de réflexivité. Portant non seulement sur les capacités intellectuelles, mais aussi sur la vie affective, émotionnelle et érotique. Pour cela, et c'est ça l'espèce de perte, enfin, ce qui m'inquiète beaucoup dans ce que je vous raconte, hein, c'est que j'ai bien un sentiment là de dire des trucs qui sont pas du tout, du tout, du tout ce que la manière dont on travaille en général, les horizons sociaux et historiques de la psychanalyse, mais que c'est une manière pour moi de défendre une thèse difficile qui ne peut pas marcher que sur les choses dont je parle et que j'inscris dans le prolongement de mes travaux sur la névrose obsessionnelle, que peut-être qui se prolongeront peut-être sur d'autres travaux, sur la paranoïa ou sur les troubles bipolaires, etc. C'est qu'il est absolument essentiel d'intriquer constamment psychogénèse et sociogénèse. La façon dont sont produits les individus dans la société et une coproduction des formes même de l'individu et du sujet dans les transformations de la société. Et qu'en aucun cas, c'est le signe d'une erreur profonde lorsque vous êtes amené à considérer que le social in abstracto aurait un effet sur le sujet, qu'une crise du social abîmerait le sujet. Quand on arrive à ce point, on est sûr qu'on s'est trompé. On est sûr qu'on a manqué le fait que le propre des sociétés individualistes, c'est d'individualiser les gens en société. Et donc, c'est la seule manière de bloquer ce dont j'étais parti, c'est-à-dire toute lecture de l'informalisation en termes de régression, voire de dégénérescence et de retour à la barbarie. Comme si l'informalisation était tout ça parce que les gens sont incapables d'apercevoir, et effectivement elles sont très complexes à apercevoir, et elles ne s'aperçoivent pas avec la lorgnette du psychologue, s'aperçoit avec des lorgnettes de démographe, d'ethnographe, de sociologue quantitativiste, etc. Les types de nouvelles règles qui régulent la production des individus. Dire que ce n'est pas régressif, ça n'est pas non plus dire que l'informalisation est progressiste. Ça, je ne crois pas du tout qu'on puisse dire qu'une informalisation représente un progrès, en quelque sorte. Vers le fait qu'il y ait plus d'autonomie et plus de réflexivité, comme ça implique un surcroît d'autocontrainte, et peut-être même l'invention de choses encore plus cruelles que le surmoi, je me pèse même, ou encore plus cruel que le surmoi, qui prennent les enfants encore plus vite et encore plus tôt dans des exigences de contrôle, etc., il n'y a aucune espèce de raison de croire que nous sommes sur la bonne voie et que nous avançons vers la liberté et la justice. L'informalisation, précisément parce qu'elle augmente les contraintes sur nous, peut être regardée avec une distance critique et il n'y a pas de raison de la trouver bonne en soi. C'est d'autant plus vrai que la démence. Bon, je ne vais pas insister plus là-dessus. En tout cas, si vous mettez ensemble les choses, l'idée que nous pouvons jeter à partir du regard que je vous donne, un regard, évidemment, c'est de très loin, un autre regard sur ce qui amène sur les divans un autre type de patient que les patients de Freud. On peut considérer qu'au fond, voilà, il faut un monde pour produire les patients qui nous arrivent. Et que ce monde est traversé d'un type de tension particulière. Vous avez là un éclairage qui va faire en sorte que la psychanalyse contemporaine, cette espèce de bio-no-winnicotisme, comme ça, dont on a parlé, vient, s'il y a un besoin de psychanalyse, il se mesure au type de réponse qu'il peut apporter à des transformations sociales de ce genre. Et la deuxième chose, c'est que il est du coup toxique pour la psychanalyse de continuer à entretenir cette espèce de fausse sociologie moralisatrice qui fait qu'un sujet ou un inconscient prétendument éternel, etc., serait attaqué par les transformations sociales. Et que non seulement c'est toxique, mais ça contribue à l'aveuglement même sur la nature des transformations qui sont celles de la psychanalyse et leur nécessité interne. Du coup, les gens vous disent « Ah oui, non, mais c'est les cliniciens qui comprennent pas, les cliniciens des borderlines, c'est des cliniciens qui comprennent ni l'hystérie ni la psychose. » Chose que j'ai entendue, moi j'étais biberonné à ce type de propos quand je faisais ma formation. Hein, que le borderline, ça n'existait pas. Hein, dans les milieux lacaniens, ça n'existait pas. Bon. Tout simplement parce que les gens ont une sorte de théorie du sujet qui est telle que le sujet serait une sorte d'invariant qui ne serait pas en quelque sorte coproduit avec le type de société à l'intérieur duquel il émerge. Donc cette sociologie décliniste ou cette pseudo-sociologie décliniste des psychanalystes, qui est souvent extrêmement moralisatrice, voilà ce qu'il faut combattre en même temps que la défense d'une compréhension sur le long terme de ces processus d'informalisation et de formalisation. Et c'est probablement seulement à partir de ce genre de choses qu'on pourra revenir, ce que je ferai la prochaine fois, hein, qu'on pourra revenir sur la théorie, hein, sur Bion, sur Winnicott, sur Green, etc., en étant guéri de la croyance que le débat se passe entre théories qui se battent. Et qu'il y a machin qui a découvert que le narcissisme était plutôt comme ceci et que Trucmuche lui répond que le contre-transfert est comme cela. C'est que, en fait, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Ça se passe au niveau du type de pratique auquel les gens sont exposés, de ce que leur théorie rend explicite du type de pratique dans lesquelles ils sont pris, de pratique avec des gens qui sont en crise à l'égard de ces notions-là. Et vous voyez du coup pourquoi le rapport qu'ils vont avoir tous ces penseurs de la psychanalyse contemporaine à des notions comme le surmoi, à des notions comme l'irreprésentable, le traumatique, etc., est commandé non pas par une réflexion sur l'histoire du traumatisme dans l'histoire de la psychanalyse, mais par le type de lésion, de souffrance, de désordre que cause cette troisième nature, en produisant des attentes normatives et des contraintes sur l'émotion, et notamment sur le control decontrolling, hein, le processus de relâchement, le processus contrôlé de relâchement du contrôle, hein, qui est le cœur de ces dispositifs. Voilà. Je me suis un peu aventuré, là. Je vous parle en fait de trucs qui sont en cours. Hein. Je ne sais pas si ça se trouve dans un an, je ne croirai plus un mot de ce que je vous ai raconté ce soir. Mais le point, c'était un peu de vous faire voir dans quel espace, comme ça, on devrait se bouger et de donner l'idée qu'il y a d'autres manières de travailler sur les transformations contemporaines de la psychanalyse que celles que nous, voilà, dont vous avez l'habitude. Est-ce que quelqu'un ici veut faire une remarque? Bon, alors je sais qu'Alex connaît toute cette littérature très bien. Peut-être qu'il pourra me faire des critiques ou ajouter des choses s'il a envie, mais comme son micro ne marche pas, je crois qu'il faudra qu'il le mette. Donc il mettra des questions par comme ça. Est-ce que quelqu'un veut réagir?
Moi, j'aurais une question. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé. Alors, si j'ai bien compris, à un moment, vous l'avez dit assez brièvement, mais vous avez rattaché la naissance de la psychanalyse à une période d'informalisation, en disant que la psychanalyse ne pouvait naître que dans une période d'informalisation. Et est-ce que vous pourriez développer un petit peu par rapport au contexte viennois, parce que j'ai du mal à voir en quoi c'était une période d'informalisation?
Parce qu'il faut un minimum d'expressivité légitime. Il n'y a pas de psychanalyse si vous ne pouvez pas vous plaindre. La forme de du discours sur le divan, c'est la plainte. Il y a des mondes, par exemple, si vous discutez avec des psychanalystes japonais, il y a des mondes dans lesquels la plainte est juste impensable. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de catégorie psychique assimilée par les individus pour se plaindre. Qui fait que par exemple, se plaindre de sa sexualité, se plaindre de son travail, etc. Parfois, ils peuvent même manquer des raisonnements. Des choses comme ça. Il faut un minimum d'expressivité possible. Et ce qui est la force de la psychanalyse, c'est de s'être situé exactement au moment, son moment de naissance, au moment où on a une expressivité possible sur un très haut degré de formalisation. Le concept même de malaise dans la culture, qui a été très frappant, parce qu'Elias y fait couramment référence, il pense tout à fait les choses, il dit que ce qu'a découvert Freud avec le surmoi, c'est vraiment une notion absolument centrale. Le concept de surmoi, c'est qu'il y a quelque chose qui exprime ce surmoi comme dont on peut se plaindre. C'est-à-dire que les souffrances, le discours de la plainte est possible. Et en même temps, on voit très bien le type d'intégration puissante qui a été dans l'éducation imposée au milieu bourgeois auquel s'adressait essentiellement Freud. Donc, il faut ce degré d'expressivité. Ce que j'ai défendu en parlant des années folles et des années 20, etc., c'est que le lien, par exemple, entre le kleinisme et le groupe de Bloomsbury, des frères Strachey, etc., c'est que pour qu'il puisse y avoir du kleinisme, il faut des formes d'expressivité, il faut que soient légitimées des formes d'expressivité, de symbolicité, d'audace dans la production d'interprétations d'emblée profonde, portant sur des choses dont le patient n'a absolument pas conscience, hein, qui supposent de la part du psychanalyste des capacités expressives qui n'auraient tout simplement pas été possibles avant, à l'époque de Freud. Voyez, et que donc ce sont des degrés particuliers d'informalisation qui rendent possibles certains types de cures. Et alors si j'avais deux vies, je pense qu'on devrait faire une histoire de la psychanalyse profondément éliassienne, travaillant sur la manière dont en même temps sont produits des rituels de formalisation de ce qui a été gagné comme gain d'expressivité, qui sont ensuite à nouveau remis en mouvement et informalisés, etc. En intégrant toutes les considérations fondamentales sur l'amour, l'érotisme, le deuil, la mort, la violence traumatique, politique, etc. etc. Et là, on aurait quelque chose qui permettrait à la psychanalyse de jouer un rôle autre que celui qu'elle joue aujourd'hui dans le champ des sciences sociales.
Merci.
Alors Alex a mis un mot que c'était sur l'informalisation, sur ton continuité avec vos précédents travaux et ceux d'Alain Ehrenberg, vraiment son dernier roman, est-ce qu'elle implique certaines ruptures? Alors sur Alain, j'en sais rien. Je ne crois pas qu'Alain soit un grand lecteur de Wouters, mais c'est quelqu'un qui connaît bien Elias. Moi, en fait, j'ai découvert Wouters tardivement. Hein. Je pense que c'est parce que les travaux que j'ai faits sur la névrose de contrainte sont des travaux qui sont éliassiens au sens où ça s'arrête précisément au moment où la névrose obsessionnelle disparaît, c'est-à-dire les années 60-70, où elle est remplacée partout en psychiatrie par une autre description de la contrainte qui est celle des TOC. Et que moi, j'avais une autre idée, hein, qui était une idée des transformations de l'autonomie, qui n'est pas exactement la même chose que les transformations de l'autocontrainte. Mais il me semble que ce qui fait la force de ces conceptions-là, c'est qu'elles me paraissent tellement justes, vous voyez, ce que dit Wouters ou ce que dit, c'est tellement juste, que ce serait anormal qu'une enquête authentiquement sociologique soit radicalement diverse. Ça serait vraiment étrange. Et que donc, ce que raconte, par exemple, Alain sur le potentiel caché, les transformations des thérapies contemporaines, peut parler tout à fait dans le même sens, vous voyez, sans avoir besoin de citer Wouters. Mais parce que, mais tout simplement parce que tout ça est déjà fortement conforté par de puissants processus qui s'étalent sur des décennies et qui sont assez bien documentés, je crois, aujourd'hui, dans des domaines vraiment très, très différents. Alors, ce qu'on pourrait interpréter l'autorité des neurosciences, oui, c'est l'idée d'Alain. Mais l'idée d'Alain est plutôt qui est une idée que je partage tout à fait avec lui, c'est qu'il ne faut surtout pas s'imaginer que l'individualisme est monolithique. En fait, ce qui fait la force de l'individualisme, c'est qu'il y a plusieurs traditions individualistes. Il y a une tradition de l'individualisme qui aboutit à la psychanalyse, qui est une tradition de la vérité, du rapport à soi, de la subjectivation, etc. Puis il y a une tradition de l'individualisme qui est plus, comme il dit, la tradition écossaise, la tradition du libéralisme écossais, hein, c'est-à-dire la maîtrise des habitudes, le contrôle des habitudes, la régulation des habitudes comme un processus triomphant de l'affirmation de soi, qui aboutit donc à d'autres types de thérapies, comme les thérapies cognitives et comportementales, qui s'inscrivent dans ce sillage de l'individualisme en ce sens-là. Non seulement il y a des traditions nationales, comme disait Dumont, allemande, anglaise, française, l'individualisme, mais il y a des puissants courants à l'intérieur de chaque nation qui sont soit des courants subjectivistes, soit des courants du potentiel et de l'habitude, hein, qui sont, et puis peut-être même d'autres. Une autre... mais vous voyez, la question d'Alex qui fait intervenir d'autres gens. C'est quand même pas possible que lorsque vous ouvrez ces insupportables ouvrages des psychanalystes d'aujourd'hui sur l'état du monde moderne, l'état d'arriération intellectuelle et scientifique dans lequel les gens sont est totalement sidérant. C'est-à-dire que là, vous êtes bien gentils, vous m'écoutez, bon, il y a des gens qui lisent, etc. Mais on a l'air d'un fou quand on parle comme je parle. Vous voyez, c'est aux yeux des psychanalystes. Mais il faut bien se rendre compte que si ce que je raconte là, c'est au contraire quelque chose d'extrêmement établi dans le champ des sciences sociales contemporaines. C'est pas du tout déviant ce que je vous raconte. Ce sont des choses. On peut être en profond désaccord à l'intérieur de ce type de tradition. Mais que ce soit les Védériens, les Eliassiens, dans le groupe auquel je participe, les Durkheimo-pragmatistes de mon laboratoire, ce que je suis en train de vous raconter ne ferait sauter au plafond absolument personne. Et que donc là, il y a un point militant qui fait que ces questions-là sont extrêmement problématiques et que, par exemple, ceux d'entre vous qui s'occupent des enfants et des adolescents sont exposés à un véritable bombardement obscurantiste touchant les transformations de la famille. Hein. J'ai passé de nombreuses années à expertiser des dossiers de candidature pour des maîtres de conférences dans des départements de psychologie. C'est extraordinaire quand vous avez des gens qui écrivent des trucs sur l'adolescent. Hein. On a l'impression que l'adolescent, c'est une maladie mortelle. Non, les adolescents, 98% des adolescents, absolument ingérables, qui font des choses affreuses, qui ont des rapports sexuels, qui fument, qui font des choses atroces, etc. Dans 5 ans, ils sont au boulot et ils payent une retraite. Hein. Faut pas tout ça va s'arranger. Hein. C'est absolument. Alors que quand vous ouvrez une thèse de psychopathologie de l'adolescence, vous avez l'impression que l'adolescence est une sorte de confrontation avec la pulsion de mort dont chacun d'entre nous ne va réchapper qu'à vraiment au prix d'un miracle thérapeutique. Hein. C'est, Et ça franchement, c'est extrêmement, c'est complètement sidérant de voir ces propos voilà, qui marginalisent la psychanalyse et qui nous font oublier tout ce qu'elle peut ouais, justement apporter d'extrêmement fin sur ces processus. Bon, eh ben, si ça vous donne assez de grain à moudre, eh ben, bonne soirée à tous et puis à toutes. Et voilà, c'est enregistré et donc on pourra accéder à l'enregistrement sur ma page. Et au contraire, faites-le entendre hein, aux gens qui travaillent sur l'adolescence. Faites écouter ça parce que les bruits que quand je parle de ces choses-là, j'ai toujours l'impression que ça suscite en fait un peu d'intérêt, que ça fait lire ses livres, qu'on va avoir des traductions du livre de Wouters, qu'il y a déjà des choses en français, et que ça peut vraiment remettre en mouvement et faire lire des vrais textes qui sont vraiment scientifiquement utiles, parce que la psychanalyse a besoin de science. Oui, elle ne peut pas se contenter d'essayisme de seconde main, parce que la situation est trop grave. Allez, bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.